Le livre de Daniel, numéro 171. L'échiquier géopolitique, le Vatican, le communisme et la quête de la domination mondiale.
Le livre The Keys of This Blood, The Struggle for World Dominion Between Pope John Paul II, Mikhail Gorbachev and the Capitalist West, a été écrit par Malachi Martin et publié pour la première fois en 1990. Martin y examine le rôle du pape Jean-Paul II en tant que figure transformatrice de la politique mondiale et de la diplomatie durant la seconde moitié du XXe siècle. Il traite du rôle du pape dans l'effondrement du communisme en Europe de l'Est. Le livre présente une perspective catholique sur les dynamiques qui ont conduit à l'accomplissement du verset 40 de Daniel 11 au temps de la fin en 1989.
Martin analyse la dynamique interne de l'Union soviétique sous la direction de Mikhail Gorbatchev, en mettant particulièrement l'accent sur les politiques de glasnost, ouverture, et de perestroïka, restructuration de Gorbatchev. Il aborde les défis auxquels l'Union soviétique est confrontée et les tentatives de Gorbatchev de réformer le système communiste. Il explore les tensions géopolitiques et les luttes de pouvoir entre l'Union soviétique, le roi du Sud, le dragon, l'Église catholique, le roi du Nord, la bête, et ce qu'il appelle l'Occident capitaliste, l'armée supplétive du roi du Nord, le faux prophète. Il évoque les conflits idéologiques, l'espionnage et les opérations clandestines qui ont caractérisé l'ère de la guerre froide, et examine les efforts de divers acteurs pour façonner l'avenir du monde. Martin souligne l'importance du catholicisme comme force dans la politique et la diplomatie mondiale. Il soutient que l'Église catholique, sous la direction du pape Jean-Paul II, a joué un rôle déterminant dans l'orientation du cours de l'histoire durant cette période et dans l'issue de la guerre froide. Il replace l'influence de Jean-Paul II dans le contexte des apparitions mariales de Fatima au Portugal et met en évidence l'influence de Fatima sur les événements mondiaux ainsi que le rôle de l'Église catholique dans le façonnement du cours de l'histoire. Martin avance que les événements de Fatima comportent d'importantes implications prophétiques et géopolitiques, particulièrement dans le contexte de la période de la guerre froide.
Martin explore les trois secrets de Fatima, qui auraient été révélés par la Vierge Maria trois jeunes bergers à Fatima en 1957. Il suggère que le troisième secret, d'abord tenu secret par la Vacina, et qui n'a été révélé qu'en 2000, contient été des avertissements apocalyptiques sur l'avenir de l'Église catholique et du monde. Martin soutient que les événements de Fatima, y compris les apparitions et les messages transmis par la Vierge Marie, ont eu des implications importantes pour la politique mondiale et la lutte entre le communisme et le capitalisme pendant la guerre froide.
Martin souligne le rôle du pape Jean-Paul II comme figure clé dans l'accomplissement des prophéties de Fatima. Il suggère que Jean-Paul II se considérait comme l'évêque vêtu de blanc mentionné dans le troisième secret de Fatima, et qu'il voyait son pontificat comme une mission visant à affronter les forces du mal et à promouvoir un renouveau spirituel au sein de l'Église catholique et de la société en général. Martin suggère que les messages de Fatima mettaient l'accent sur l'importance du combat spirituel et sur la nécessité pour l'Église catholique d'affronter les forces du mal, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église. Il soutient que les événements de Fatima ont fourni un cadre spirituel et moral pour comprendre et relever les défis auxquels l'humanité est confrontée dans le monde moderne. Les messages de Fatima représentent le message satanique qui conditionne le catholicisme à accepter Satan comme le Christ, lorsqu'il se fait passer pour le Christ lors de l'imminente loi dominicale.
Satan accomplira des miracles pour tromper les habitants de la terre. Le spiritisme fera son œuvre en amenant des esprits à se faire passer pour les morts. Les organisations religieuses qui refusent d'entendre les messages d'avertissement de Dieu tomberont sous une puissante séduction et s'uniront au pouvoir civil pour persécuter les saints. Les églises protestantes s'uniront au pouvoir papal pour persécuter le peuple de Dieu qui garde les commandements. C'est cette puissance qui constitue le grand système de persécution et qui exercera une tyrannie spirituelle sur les consciences des hommes. Il avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et il parlait comme un dragon. Bien qu'ils professent être des disciples de l'agneau de Dieu, les hommes s'imprègnent de l'esprit du dragon. Ils prétendent être doux et humbles, mais ils parlent et légifèrent avec l'esprit de Satan, montrant par leurs actes qu'ils sont le contraire de ce qu'ils prétendent être. Cette puissance semblable à un agneau s'unit au dragon pour faire la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ. Et Satan s'unit aux protestants et aux papistes, agissant de concert avec eux comme le Dieu de ce monde, dictant aux hommes comme s'ils étaient les sujets de son royaume, à traiter, gouverner et contrôler à son gré.
Si les hommes ne consentent pas à fouler aux pieds les commandements de Dieu, l'esprit du dragon se révèle. Ils sont emprisonnés, traduit devant des conciles et condamné à des amendes. Il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Apocalypse 13, 16. Il avait le pouvoir de donner la vie à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient mis à mort. Verset 15. Ainsi, Satan usurpe les prérogatives de Jéhovah. L'homme du péché siège à la place de Dieu, se proclamant Dieu et se plaçant au-dessus de Dieu. Manuscrit Poélices, volume 14, 163.
L'Antéchrist est un symbole à la fois du pape de Rome et de Satan, car le pape de Rome est le représentant terrestre de Satan. Ainsi, Satan usurpe les prérogatives de Jéhovah. L'homme du péché siège à la place de Dieu, se proclamant Dieu et agissant au-dessus de Dieu. Satan a l'intention, lorsqu'il prendra le contrôle, de dominer le monde au point de dicter aux hommes comme s'ils étaient les sujets de son royaume, pour être manipulés, gouvernés et contrôlés à sa guise. Afin d'avoir un trône religieux d'où régner, il a créé l'Église catholique. Et afin d'avoir un trône politique d'où régner, il a créé l'Organisation des Nations Unies.
Ce compromis entre le paganisme et le christianisme a entraîné le développement de l'homme du péché, prédit par la prophétie comme s'opposant à Dieu et s'exaltant au-dessus de Dieu. Ce gigantesque système de fausses religions est un chef-d'œuvre de la puissance de Satan, un monument de ses efforts pour s'asseoir sur le trône et régner sur la terre selon sa volonté. La grande controverse, 5 ans.
Le miracle de Fatima et sa prophétie satanique sont ce dont Satan s'est servi pour préparer un cadre prophétique qui permet au catholicisme de livrer rapidement son Église à son contrôle, lorsqu'il apparaîtra et se fera passer pour le Christ. Son imposture consistant à se faire passer pour le Christ commence avec la loi dominicale imminente, représentée aux versets 16, 22, 31 et 41 du chapitre 11 de Daniel.
Par le décret imposant l'institution de la papauté en violation de la loi de Dieu, notre nation se séparera entièrement de la justice. Lorsque le protestantisme étendra la main par-dessus l'abîme pour saisir la pinte de la puissance romaine, lorsqu'il se penchera au-dessus du gouffre pour s'unir au spiritisme, lorsque sous l'influence de cette triple union, notre pays répudiera tout principe de sa constitution en tant que gouvernement protestant et républicain, et pourvoira à la propagation des faussetés et des séductions papales, alors nous pourrons savoir que le temps est venu pour l'œuvre prodigieuse de Satan, et que la fin est proche. Testimonies, volume 5, p. 85-1.
Lors de l'instauration de la loi du dimanche aux États-Unis, le temps est venu pour l'œuvre prodigieuse de Satan. Dans l'Apocalypse, chapitre 16, verset 11, les États-Unis parlent comme un dragon, puis au verset 13, qui se contente d'indiquer ce qui se passe lorsque les États-Unis parlent, en adoptant la loi du dimanche, Satan semble faire descendre du feu du ciel.
Serviteur de Dieu, le visage illuminé resplendissant d'une sainte consécration, se hâteront de lieu en lieu pour proclamer le message venu du ciel. Par des milliers de voix, sur toute la terre, l'avertissement sera donné. Des miracles s'accompliront, les malades seront guéris et des signes et des prodiges accompagneront les croyants. Satan aussi opère, avec des prodiges mensongers, allant jusqu'à faire descendre du feu du ciel à la vue des hommes. Apocalypse 13:13. Ainsi les habitants de la terre seront amenés à prendre position. La grande controverse, 1611-1612.
Les messages de Fatima furent confirmés par un miracle dont témoignèrent les journaux du gouvernement athée, présents à l'événement afin de réfuter les affirmations selon lesquelles la prétendue Vierge Marie rendait visite aux trois enfants le 13e jour de chaque mois, depuis mai jusqu'au miracle du 13 octobre 1917. Tous les organes de presse athée qui se trouvaient à Fatima au moment du miracle confirmèrent l'événement. Ce fut un véritable miracle de Satan. Comme l'a montré Malachi Martin dans son livre, le pape Jean-Paul était guidé par sa dévotion à Marie de Fatima. La prophétie secrète de Fatima, qui n'a été révélée qu'en l'an 2000, était bien sûr une prophétie satanique. Mais dans les derniers jours, Jésus répète les premiers jours. Le plus ancien livre de la Bible, le premier livre que Moïse a écrit, est le livre de Job. Élie identifie Job comme représentant les 144 000, car toutes les prophéties s'accomplissent de la manière la plus parfaite dans les derniers jours. Satan, dans l'histoire de Job, est autorisé à faire s'abattre sur Job la mort et la destruction afin de l'éprouver. Les miracles que Satan est autorisé à accomplir dans les derniers jours sont de véritables miracles. Ce sont des miracles sataniques, mais Dieu a permis à Satan d'accomplir son acte suprême, pour la même raison qu'il lui a permis de mettre Job à l'épreuve.
Beaucoup s'efforcent d'expliquer les manifestations spirites en les attribuant entièrement à la fraude et au tour de passe-passe du médium.
mais s'il est vrai que les résultats de la supercherie ont souvent été présentés comme des manifestations authentiques, il y a eu aussi de notables démonstrations de puissance surnaturelle. Les coups mystérieux par lesquels a commencé le spiritisme moderne n'étaient pas le résultat de supercheries ou de ruses humaines, mais l'œuvre directe d'anges maléfiques, qui ont ainsi introduit l'une des illusions les plus destructrices pour l'âme. Beaucoup seront pris au piège par la croyance que le spiritisme n'est qu'une imposture humaine. Lorsqu'ils se trouveront face à face avec des manifestations qu'ils ne pourront que considérer comme surnaturelles, ils seront trompés et seront amenés à les accepter comme la grande puissance de Dieu. Ces personnes négligent le témoignage des Écritures concernant les prodiges opérés par Satan et ses agents. C'est avec l'aide de Satan que les magiciens de Pharaon ont pu contrefaire l'œuvre de Dieu. Paul témoigne qu'avant le second avènement du Christ, il y aura des manifestations semblables de la puissance satanique. La venue du Seigneur doit être précédée par l'œuvre de Satan avec toute puissance, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice. 2 Thessaloniciens 2, 9-10. Et l'apôtre Jean, décrivant la puissance capable d'opérer des miracles qui se manifestera dans les derniers jours, déclare « Il fait de grands prodiges, au point de faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et il séduit les habitants de la terre par les miracles qu'il a le pouvoir d'accomplir. » Apocalypse 13, 13-14. Il ne s'agit pas ici de simples impostures. Les hommes sont trompés par les miracles que les agents de Satan ont le pouvoir d'accomplir, et non par ceux qu'ils prétendent faire. La grande controverse, 583.
Dans le livre de Malachi Martin, les messages de Fatima sont présentés comme la structure prophétique du catholicisme dans les derniers jours, en lien avec une lutte interne au sein de l'Église, qui peut être représentée soit comme le bon pape contre le mauvais pape, soit comme le pape conservateur contre le pape libéral. Le conservateur, et selon l'interprétation du miracle par Martin, le bon pape, fonde sa compréhension sur le premier concile du Vatican, également appelé Vatican I, qui s'est tenu du 8 décembre 1869 au 20 juillet 1870, convoqué par le pape Pie IX et principalement consacré à la définition du dogme de l'infaillibilité pontificale et au traitement de diverses questions théologiques et doctrinales auxquelles l'Église catholique était confrontée à l'époque. Le deuxième concile du Vatican, communément appelé Vatican II, s'est tenu bien plus tard, du 11 octobre 1962 au 8 décembre 1965. Il a été convoqué par le pape Jean XXIII et poursuivi par le pape Paul VI après la mort de Jean XXIII. Les derniers jours du catholicisme, tels que Martin les a exprimés, identifient la lutte entre, d'une part, l'infaillibilité et la primauté de l'Église de Rome, telle qu'énoncée à Vatican II, et d'autre part, le libéralisme actuellement affiché par François, le pape woke, est représenté dans les documents de Vatican II. Martin suggère que dans la lutte entre ces deux approches pour contrôler l'Église, la Troisième Guerre mondiale éclate, et que Jésus y revient, descend sur terre, accorde sa bénédiction au bon pape et prend le trône de l'Église catholique. Dans les versets 13 à 15 de Daniel 11, l'histoire qui précède immédiatement la loi du dimanche, du verset 16, décrit la troisième et dernière bataille des guerres par procuration. C'est la bataille qui suit la victoire de Poutine aux versets 11 et 12. Mais au milieu de ces trois versets, le verset 14 indique le moment où le catholicisme entre dans l'histoire des derniers jours jeunesse. Selon Isaïe, la prostituée de Rome est oubliée durant le règne symbolique de 70 ans du sixième royaume de la prophétie biblique. La première fois que la papauté fut intronisée sur la terre, en 538, le jalon qui précéda son intronisation fut le décret de Justinien de 533. L'histoire entourant le décret de Justinien indique que Justinien a cherché à consolider son contrôle sur son royaume en mettant fin à la querelle religieuse qui causait des troubles dans le royaume. Cette querelle portait sur la question de savoir si l'église de Constantinople à l'est ou l'église de Rome à l'ouest était à la tête de la soi-disant église chrétienne. Au verset 13, le dernier président des États-Unis sera confronté à une controverse qui l'obligera à faire écho à l'histoire de Justinien et à déclarer que l'Église catholique est à la tête des églises et la correctrice des hérétiques, afin d'obtenir le soutien politique nécessaire à la consolidation de son pouvoir. Nous ne devrions pas placer la moindre confiance dans les prédictions sataniques de Fatima, mais il nous faut considérer ce qui est révélé dans la parole de Dieu. Au début du XXe siècle, les deux cornes de la bête de la terre sont entrées dans leur troisième génération, qui est la génération du compromis. La corne républicaine a livré son système financier aux banquiers mondiaux, qui font remonter leurs origines à la maison du bouclier rouge, les Rothschild, et à sa mystérieuse connexion avec les Illuminati, la franc-maçonnerie, les sociétés secrètes et l'ordre jésuite. Sir White met directement en garde contre ces entités. Durant la même période, l'adonatisme laodicéen, en tant que corne protestante, à livrer ses institutions éducatives et religieuses au gouvernement de ce monde. À cette même période, le roi moderne du Sud commence son histoire avec la Révolution russe et le roi moderne du Nord commence la sienne avec le miracle de Fatima. Comme le souligne Malachi Martin dans son livre, au-delà de la lutte interne entre le bon et le mauvais pape, les messages de Fatima identifiaient le combat du catholicisme contre l'athéisme en général, mais plus précisément contre l'athéisme de la Russie. Le secret sur lequel, en 1917, le pape devait agir contenait la promesse satanique que, si le pape convoquait un conclave et consacrait la Russie à la Vierge Marie, il n'y aurait pas de Deuxième Guerre mondiale. Il précisait aussi que, si le pape refusait, la Russie répandrait sa philosophie à travers le monde et qu'il y aurait alors une autre guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale comprenait la guerre du catholicisme contre le communisme de la Russie. L'armée par procuration du catholicisme dans cette guerre était l'Allemagne nazie. La papauté emploie toujours des armées par procuration. En 1933, l'Église catholique, par l'entremise du cardinal Pacelli, signa un concordat avec Adolf Hitler, qui permit à Hitler de prendre le contrôle de l'Allemagne. Et, selon le propre témoignage de Hitler, ce contrat, concordat, fut ce qui lui permit de résoudre la question juive. Les nazis furent l'instrument de la papauté contre la Russie athée durant la Seconde Guerre mondiale et, dans la seconde bataille des guerres par procuration, qui s'accomplit maintenant en Ukraine, l'action est menée par une autre armée nazie agissant par procuration. Nous poursuivrons cette étude dans le prochain article.
Par les deux grandes erreurs, l'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche, Satan amènera le peuple sous ses tromperies. Tandis que la première pose les fondements du spiritisme, la seconde crée un lien de sympathie avec Rome. Les protestants des États-Unis seront les premiers à tendre la main par-dessus le gouffre pour saisir la main du spiritisme. Ils étendront la main au-dessus de l'abîme pour serrer la main de la puissance romaine. Et, sous l'influence de cette triple union, ce pays suivra les traces de Rome en foulant aux pieds les droits de la conscience. À mesure que le spiritisme imite de plus près le christianisme nominal de notre temps, il acquiert un plus grand pouvoir de tromper et de prendre au piège. Satan lui-même se convertit, selon l'ordre moderne des choses. Il apparaîtra sous les traits d'un ange de lumière. Par le moyen du spiritisme, des miracles seront accomplis, les malades seront guéris et de nombreuses merveilles incontestables seront opérées. Et comme les esprits professeront la foi en la Bible et manifesteront du respect pour les institutions de l'Église, leur œuvre sera acceptée comme une manifestation de la puissance divine, non. La ligne de démarcation entre les chrétiens professants et les impies est désormais à peine perceptible. Les membres de l'Église aiment ce que le monde aime et sont prêts à se joindre à eux. Isata se propose de les unir en un seul corps et de fortifier ainsi sa cause en entraînant tous dans les rangs du spiritisme. Les papistes qui se vendent de miracles comme signe certain de la véritable Église seront facilement trompés par cette puissance opérant des prodiges. Et les protestants, ayant rejeté le bouclier de la vérité, seront eux aussi séduits. Papistes, protestants et gens du monde accepteront pareillement l'apparence de la piété, sans la puissance. Et ils verront dans cette union un grand mouvement pour la conversion du monde et l'avènement du millénium attendu depuis longtemps. Par le spiritisme, Satan se présente comme un bienfaiteur de la race humaine, guérissant les maladies du peuple et prétendant présenter un système de foi religieuse nouveau et plus élevé. Mais en même temps, il agit en destructeur. Ses tentations entraînent des multitudes à la ruine. L'intempérance détrône la raison. S'ensuivent l'indulgence sensuelle, la discorde et l'effusion de sang. Satan se complaît dans la guerre, car elle excite les pires passions de l'âme et emporte ensuite dans l'éternité ses victimes, plongées dans le vice et le sang. Son but est d'inciter les nations à se faire la guerre les unes aux autres, car il peut ainsi détourner les pensées des hommes de l'œuvre de préparation pour tenir ferme au jour de Dieu. Satan agit aussi au moyen des éléments pour moissonner sa récolte d'âmes non préparées. Il a étudié les secrets des laboratoires de la nature et il emploie toute sa puissance pour maîtriser les éléments dans la mesure où Dieu le permet. Lorsqu'il lui fut permis d'affliger Job, avec quelle rapidité troupeaux et bétail, serviteurs, maisons, enfants furent balayés, un malheur succédant à un autre en un instant. C'est Dieu qui protège ses créatures et les met à l'abri de la puissance du destructeur. Mais le monde chrétien a manifesté du mépris pour la loi de Jéhovah, et le Seigneur fera exactement ce qu'il a déclaré qu'il ferait. Il retirera ses bénédictions de la terre et ôtera sa protection à ceux qui se rebellent contre sa loi et qui enseignent et contraignent les autres à faire de même. Satan a le contrôle de tous ceux que Dieu ne garde pas spécialement. Il favorisera et fera prospérer certains afin de faire avancer ses propres desseins, et il apportera des malheurs à d'autres, amenant les hommes à croire que c'est Dieu qui les afflige. La grande controverse,
588-589.